11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Pour lui, 2020 rime avec « je vais tout faire pour terminer l'année avec le corps de Mike Tyson », mais probablement en vain. Celui à qui l'on souhaite beaucoup de courage, Ben H est avec nous.
Merci pour ce courage, bonjour à tous et bonne année.
Il aurait voulu que sa belle-mère fasse une Carlos Ghosn et s'exfile de sa soirée de réveillon. Malheureusement, elle a fait une bouteflika, elle est restée jusqu'au bout. Le malchanceux Jean-Philippe Pizzini.
Bonjour à tous, bonjour les amis, bonne année.
2020, c'est un nombre qui compte beaucoup pour lui parce que c'est aussi le code pour débloquer son smartphone. Oui. Il n'a rien à cacher pour cette nouvelle année, Laurent Barra.
Bonjour à tous, bonjour à tous, bonne année. Et celle qui, après avoir survécu à une alerte au cyclone à l'île Maurice, a attrapé un coup de soleil carabiné. Après ça, je peux vous dire que plus personne ne pourra lui mettre devant l'indéracinable Anne Romanoff.
Bonne année à tous. Pour bien démarrer cette nouvelle année, justement, nous vous ferons gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ». Notre première invitée sera Elena Noguera qui vient nous parler du festival Paris des femmes qui se déroule les 9, 10 et 11 janvier à la Pépinière Théâtre et qui met à l'honneur les auteurs du féminin du spectacle vivant. Puis nous recevrons Bruno Solo pour la saison 3 de sa série La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe dont les épisodes 5 et 6 seront diffusés ce soir sur France 5.
11h midi, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
2020 vient de commencer et déjà on est plongé dans les contradictions humaines. Carlos Ghosn a déclaré « Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice
oh, ».
Carlos Ghosn, libéré, délivré, mais c'est la reine des neiges. Quelle jolie phrase quand même, je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice, ça me rappelle, je ne te trompe pas, je vis de nouvelles expériences. Emmanuel Macron lui a déclaré, la réforme ira jusqu'au bout et il faut trouver un compromis. La réforme, je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout, mais nous on est au bout et on nous prend pour des compromis. Non mais la réforme ira jusqu'au bout, il faut trouver un compromis. C'est comme quand je dis je vais maigrir et oh ils ont l'air bons ces chocolats. Macron a déclaré il ne faut céder en rien à l'immobilisme et au pessimisme. On voit bien qu'il ne prend pas le métro, le RER, parce que toutes les rames sont atteintes d'immobilisme. Et nous on a passé le cap du pessimisme, on est dans le ras-le-bolisme. D'ailleurs, est-ce que c'est pessimiste de penser que la grève est loin d'être terminée? Non, je crois que c'est juste être réaliste. Alors notons que Macron accuse les syndicats d'immobilisme et que lui ne veut pas toucher à sa réforme. Qui fait preuve d'immobilisme?
Vous avez deux heures.
Enfin bref, il m'est avis qu'on n'a pas fini de marcher et pour que ça s'arrête bientôt, je crois qu'on peut toujours courir. Maintenant, on nous parle de panne de carburant. Et ben voilà vraiment une année qui démarre sur les chapeaux de roue.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Alors, on est en 2020, depuis deux jours. Comment se passe ce début d'année? Vous voulez souhaiter une bonne année aux auditeurs, aux gens que vous aimez? Vous avez pris des résolutions, Ben H?
Merci, Anne, de me donner l'occasion de faire passer un message. Alors, c'est pour la jeune femme que j'ai rencontrée le soir du 31, suite à cette nuit magique. Il faut absolument qu'elle me recontacte si elle nous écoute.
Vous êtes tombé amoureux, Ben H?
Non, mais j'ai oublié mon pull chez elle et j'aimerais bien le récupérer.
Jean-Philippe?
Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle pour Ben. J'ai récupéré ton pull. Ah. Et la jeune femme en question, c'était ma belle-mère.
J'avais bu.
Et pour répondre à votre question, oui, j'ai pris une bonne résolution. J'arrête définitivement l'alcool pour plus finir mes soirées comme celle de Ben H.
Laurent ?
Je voudrais souhaiter tous mes vœux de bonheur à nos auditeurs. Santé, argent et travail.
Vous oubliez l'amour, Laurent ?
Non, Anne, je suis à nouveau célibataire et en cette fin d'année, c'est l'amour qui m'a oublié.
Oh. Oh. Ça fait 42 ans qu'il
disappeint. Eh oui.
Laurent Barra, vous avez eu une galère le 31 décembre ?
Oui, Anne, le soir du Nouvel An, il m'est arrivé ce drame que tout être humain moderne redoute. J'ai oublié le code PIN de mon téléphone. Alors, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je l'avais éteint, il est toujours allumé, généralement. Mais au moment de le rallumer et de composer ce foutu code, impossible de m'en souvenir. Est-ce le 13-13, le 14-14 ? Allez, troisième et dernier essai, le 06-06, pas bête, par rapport à mon département de naissance. Et voilà, et non, bonne année, la santé et carte SIM bloquée. Entrez le code PUC. Alors le code PUC, Anne, cette suite de 14 chiffres inscrits sur un papier que généralement tu jettes avec la boîte du téléphone est pourtant indispensable en cas d'oubli du PIN. Mais entre le digicode de mon immeuble, les mots de passe Facebook, Twitter, Instagram, mon code de carte bleue, le seul code au monde que si tu penses que tu vas l'oublier... Tu l'oublies. Alors que tout le monde danse, gobe des huîtres, je déambule dans la soirée du Nouvel An comme un mort-vivant. Code PUC, code PUC. Rendez-vous compte, je ne peux même pas recevoir ces textos de bonne année, pas signés. Je trouve enfin un téléphone fixe pour appeler le numéro d'urgence.
Obtenir code PUC, quel est votre mot de passe?
Mais quel mot de passe? Non mais c'est pas possible, il y a 10 ans que j'ai créé ce compte. Généralement c'est le prénom d'une ex. Laetitia. Tina. Zidane.
Code PUC envoyé par SMS.
Mais je peux pas recevoir de SMS, ma SIM est bloquée. Oh, j'en peux PUC. Bah, finalement, grâce au Wi-Fi, j'ai pu récupérer mon code et j'ai bien compris qu'au-delà de l'amour, la santé, la prospérité, l'important aujourd'hui, c'est de rester connecté.
Bah, oh, vous avez pas trouvé l'amour, vous avez un code PUC.
J'ai un code PUC.
Comme
oui,
ça, vous pouvez recevoir des SMS.
Bah, ça y est, mais j'ai réactivé tous les dossiers là. Je peux.
Là, je suis vous avez recontacté tous vos vieux réseaux.
Ah non, mais c'est pas des vieux réseaux et je vous en avais parlé. J'ai tout réactivé là. Là, je suis. Ouh, j'ai un centre d'appel là. Oui,
mais dis donc, vous perdez pas de temps parce que
non,
vous êtes
savez,
fait
à 41 ans, on perd plus de temps. Maintenant, je suis pas
non, un mais non, mais quand même, il s'est fait larguer le 27 décembre. On est le 3 janvier, vous avez déjà tout réactivé.
Anne, je suis. Enfin, vous avez en face de vous une bête blessée. Et vous croyez que je vais faire quoi? Rester chez moi à jouer à la console de jeu? Non, non, j'ai envie de. Je crois toujours à ce cadeau de la vie. Et j'y vais. Voilà. Bon, je suis un éternel optimiste.
Jean-Philippe Bizigny, vous avez un coup de cœur à passer pour tous ceux qui ont pris des bonnes résolutions?
Je voudrais adresser un message d'amour à toutes les personnes qui, comme moi, ont décidé pour cette année 2020 de tenir leurs bonnes résolutions. À commencer par le dry janvier, cette coutume qui nous vient de Grande-Bretagne, qui consiste à ne pas boire une goutte pendant tout le mois de janvier.
Vous comptez le faire, Jean-Philippe?
Oui, oui. Oui, avec ma femme, on a décidé, on ne boira plus jamais une goutte. Non, on boira des verres pleins. Bah oui, ça sert à rien de boire une goutte, on n'est pas bourré avec une goutte. Pareil pour le sport, j'envoie un gros message d'amour à tous ceux qui, comme moi, se sont mis au sport en 2020.
Vous êtes mis au sport, Jean-Philippe?
Oui, oui, je me suis abonné à France Football. Et vous, Anne, alors, votre préparation intensive pour ce marathon de New York, ça avance?
Eh bien, alors, figurez-vous, ouais, alors, non, mais je peux vous régler. J'ai rendez-vous pour courir dimanche.
Ouh, ça va faire mal.
Et je pense passer à 22 minutes.
Eh bien, dis donc, ça s'applaudit. Hein. On est de tout cœur avec vous. Et pour finir, je voudrais envoyer un gros message d'amour à tous ceux qui, comme moi, pour 2020, ont décidé de se débarrasser des personnes toxiques. De tous ces gens qui nous tuent à petit feu, je veux bien sûr parler de nos enfants. Personnellement, je retrouve plus les miens depuis le soir du réveillon. J'avais tellement bu que je sais plus ce que j'en ai fait. Et ben, je revis. Bonne année. Voilà.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizigny, Ben H, Laurent Barra et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end Thalasso pour deux personnes. On joue à un autre jeu. Devinez qui je suis.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizigny.
Ça fait beaucoup de bien.
Ben H.
Rebonjour et bonne année.
Laurent Barra.
Rebonjour, bonne année.
Alors, quels sont les pires et les plus beaux textos de bonne année que vous ayez reçus cette année, Ben H?
Ben moi, j'ai reçu le pire message possible cette année. Je vous le lis, texto. Hein. Que cette année soit enfin la nôtre. Je t'aime et je ne veux plus cacher notre amour. Retrouve-moi vite.
Ah bon? Pourquoi c'est le pire?
Ben parce que juste après, j'ai reçu erreur de destinataire. Désolé.
Ah mince.
Ma vie.
Laurent?
Bon, bah alors moi, c'est un secret pour personne, je suis célibataire et j'ai reçu un très beau message de mon ex. Mon Laurent, que cette nouvelle année t'apporte joie, amour et prospérité.
Bah, c'est très beau, vous lui avez répondu quoi?
Bah, j'ai été très classe, j'ai répondu merci et surtout que toi, tu me rapportes mon double de clé.
Jean-Philippe Bizigny, quel texto vous avez reçu?
Alors moi, j'ai reçu que 2020 fasse de toi un homme encore plus beau qu'en 2019. Wow. Et que ton corps parfait continue de nous épater. Dommage que je ne sois trop timide pour faire le premier pas. Signé Anne Roumanoff. J'ai eu ça, moi. Ça m'a vraiment touché, Anne.
C'est vrai, bah merci.
Oh, vous êtes trop timide.
Alors, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Laurent?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué la semaine. Nous vous offrons une pause bien nette pour deux personnes de deux jours et deux nuits dans l'un des 9 instituts Thalassos, Thalassothérapie et Spa. Vous serez...
Oh, 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 on va le prendre dans le désordre.
Nous vous offrons une pause bien nette pour deux personnes de deux jours et deux nuits dans l'un des 9 instituts Thalassos, Thalassothérapie et Spa. Vous serez reçus pour un séjour Vitalité Marine en demi-pension à l'hôtel Cordon en Thalassur de Royan, un magnifique hôtel 4 étoiles qui se situe face à l'océan, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Vous bénéficierez de soins d'hydrothérapie, d'enveloppement.
Ça va pas mieux, hein. Ça va pas mieux du tout. Que 2020 vous apporte l'amour et la sagesse.
On pensait qu'avec des vacances ça irait mieux, mais...
J'ai envie de griffonner un arc-en-ciel.
Vous bénéficierez de soins d'hydrothérapie, d'enveloppement d'algues et de soins privilèges, avec bien sûr accès au hammam, au sauna, à la piscine d'eau de mer. Plus d'infos sur talazur.fr.
Oui. Oh. Elle a craqué. Oui,
c'est... On joue d'abord avec Amandine. Bonjour Amandine.
Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe.
Bonne année.
Et la santé surtout.
Ça s'est bien passé le réveillon?
Impeccable, super.
Vous avez 36 ans Amandine, vous êtes déléguée pharmaceutique. Vous habitez à Noiron sous Gevrey dans le 21, à côté de Dijon. Et vous aimez fabriquer des bijoux.
C'est ça, tout à fait.
Alors vous êtes mariée depuis 14 ans, vous avez rencontré votre mari sur internet et vous avez deux enfants de 8 ans et 10 ans Amandine, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et alors ce serait bien de gagner un petit séjour en thalasso, dites-moi.
Oh bah ça serait impeccable, un petit séjour en amoureux, ça serait top. Oui.
Liste 1 ou liste 2?
Liste 2.
Liste 2, vous jouez avec qui?
Jean-Philippe.
Bien bonne idée.
Des personnalités qui ont marqué la semaine. Vous êtes prêts Jean-Philippe Bizini?
Oui.
Allez, c'est pas très difficile quand même. Hein. Attention. Top chrono.
L'animateur qui fait tourner les serviettes, le plus grand cabaret.
Patrick Sébastien.
Ça, c'est le chef des catholiques. Il a une robe blanche.
Le pape?
Ouais, lequel? C'est le prénom de Hollande. Le prénom de Hollande. C'est...
François.
Ouais, elle chante « Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis ».
Amel Bent.
C'est lui qui fait « Chouchou », »,« Le Blond », un humoriste.
Du Jardin.
Non,
du Jardin.
Non.
Gad Elmaleh, ouais. Gad Elmaleh.
Elle, elle joue dans Basic Instinct. Et on voit sa
culotte. Sharon Stone.
Ouais, lui c'est le président de Renault, il s'est évadé de prison.
Carlos Ghosn.
Elle, elle présente les maternelles à la télé, elle était sur Europe 1, elle a fait le nouvel...
Maïté quelque chose.
Daphné Burki.
Non, mais elle ne présente plus les maternelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo Amandine, 6 bonnes réponses, ça s'applaudit.
Bravo. Bien.
Merci.
On va voir comment se débrouille Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe.
Bonne année. Ça s'est bien passé le nouvel an?
Ça s'est bien passé, ouais, en famille, tranquillement, et voilà, on est reparti pour une nouvelle année.
Pas de cyclone?
Non, pas de cyclone, malgré qu'on soit en Bretagne, ça ne se soufflait pas tant que ça. Non, ça allait.
Alors Pierre, vous avez 30 ans, vous êtes horticulteur, vous habitez à Plouvara dans le 22 en Bretagne.
C'est ça.
Et vous êtes en couple avec Lucie, que vous avez rencontrée sur le marché.
Ouais, sur le marché de Saint-Brieuc, ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'elle faisait sur le marché?
Elle a acheté des fleurs.
Ah, elle vous a acheté des fleurs?
Ouais. Et voilà, et un bouquet en entraînant un autre, et ainsi de suite, et voilà, on a...
Elle n'a pas payé le bouquet, quoi.
Ah oui, donc elle venait tout le temps acheter des fleurs, elle a craqué pour le marchand de fleurs.
Régulièrement, elle est repartie avec le marchand, c'est ça.
et là, vous continuez à lui offrir des fleurs à Lucie?
Oui, tout à fait, ouais, je continue à lui en offrir en coupant dans le champ directement. C'est vrai que rentrer le soir du boulot avec ça, c'est pas mal.
Et en plus, vous avez donné un nom de fleur à votre petite fille, comment elle s'appelle?
Ouais, elle s'appelle Iris, elle vient d'avoir 2 ans.
Oh, c'est joli,
c'est
ça.
Ouais, c'est pas mal.
Vous aimeriez bien l'emmener en thalasso?
Bah, bien sûr.
Bon,
bien
mais il faudrait faire 7 bonnes réponses, ça va pas être évident. Hein.
Ah, on va essayer.
Bon, vous choisissez qui?
Moi, j'aimerais jouer avec Benache, s'il vous plaît.
Avec plaisir. Il va falloir s'accrocher, c'est costaud là.
Bon, vous êtes prêts? Attention,
c'est parti.
Top chrono.
C'est une rappeuse française qui a arrêté le rap, maintenant elle a un voile, elle écrit des livres.
Gams.
Oui, c'est le président américain.
Donald Trump.
Oui, c'est une grande chanteuse qui chante All I Want For Christmas Is You, qu'on a entendu depuis 2 mois,
Mariah Carey.
Oui, c'est ça, c'est un chanteur sous les sunlights des tropiques, non voyant. Oui, c'est ça. C'est un jeune chanteur américain qui a été connu pour sa mèche très longtemps. Chanteur à mèche. Oui, c'est ça. Elle est nulle. C'est une humoriste des nuls. Il y avait Alain Chabat, Bruno Carrette, Farrugia et... Non, bon, c'est pas grave. C'est le président de la CGT. On parle que de lui avec sa petite moustache.
Martinez.
Oui, c'est ça. Il joue dans Brise de Nice. C'est le point qui a
un... égalité.
Ouais, non, c'était l'autre, mais bien 6-6.
Égalité, tous les deux. Vous avez bugué sur Chantal Lobby, qui a reçu la Légion d'honneur. On la félicite d'ailleurs. Alors, bah, vous êtes à égalité, Amandine et Pierre. Vous êtes prêts tous les deux? Je vais vous départager.
Oui.
Ça marche.
C'est une chanteuse américaine la plus connue au monde. Elle devait sortir un nouvel album en 2019.
Mariah Carey.
Elle devait sortir un nouvel album, elle est afro-américaine, elle est sortie avec Chris
Brown.
Oui,
bravo.
Rihanna.
Amandine, bravo.
Ouais.
Un cri de joie, Amandine.
Ouais.
Vous avez gagné un séjour bien-être pour 2 personnes de 2 jours et 2 nuits à l'hôtel Cordon en Talazur de Royan, magnifique hôtel 4 étoiles face à l'océan. Vous bénéficierez de soins d'hydrothérapie, d'enveloppement d'algues, de soins privilèges, accès au hammam, au sauna, à la piscine d'eau de mer. Plus d'infos sur talazur.fr.
Merci beaucoup.
Pierre, vous avez un lot de consolation d'ailleurs pour tous les deux. Pour les fêtes, le fabricant chocolatier français Réauté Chocolat vous offre un coffret de plus d'un kilo de chocolat croustillant, fondant, croquant. Retrouvez le magasin le plus proche de chez vous sur réauté-chocolat.com. Réauté Chocolat, goûtez, vous verrez.
Merci beaucoup.
Merci. Bah oui,
Pierre, on est d'accord que vous rejouez avec nous d'ici un mois, parce que là, d'avoir frôlé la victoire
avec
comme ça...
C'est un petit peu dur, mais oui, sans problème, on repart dans un mois, il n'y a pas de souci.
Oui, alors, et comme ça, vous nous donnerez des nouvelles, vous nous enverrez des fleurs, tout ça. On vous embrasse tous les deux, Amandine, profitez bien, continuez à nous écouter.
Merci beaucoup, au revoir.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Jean-Philippe Vizini, Laurent Barra et notre première invitée, la belle Elena Noguera, qui vient nous parler du festival Paris des Dames qui aura lieu les 9, 10 et 11 janvier à la Pépinière Théâtre à Paris.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Laurent Barra et notre invitée ce matin qui est actrice, chanteuse, écrivaine. Elle est aussi belle, mince, sexy, mince, sympa, mince, bref.
Vous avez un problème avec le mince ou quoi ?
Elle est un peu énervante. De son rôle culte dans le film L'Arnaqueur à ses collaborations musicales déjantées, elle est l'artiste avec un grand A comme dans la phrase « Attention, elle n'a aucune limite ». Elle sera le 10 janvier sur la scène du théâtre de la Pépinière dans le cadre du festival Paris des Femmes sur le thème cette année du secret, des secrets. On espère qu'elle va nous en donner, surtout celui de son éternelle jeunesse. Merci d'accueillir comme il se doit la renversante Elena Noguera. Bonjour Elena Noguera, bienvenue sur Europe 1. Ça s'est bien passé le réveillon ?
Oui, très bien, c'était très, très chouette. Je n'ai eu que des solitaires qui ont eu le courage de venir se confronter à des nouvelles personnes. Je trouvais ça très courageux.
Vous avez fait un réveillon avec des gens seuls ?
Oui.
Et il y a eu des rencontres ?
Non, je crois pas.
Pourquoi
personne m'appelle, moi ?
Oui, pourquoi on ne nous a pas invités, nous ?
Parce qu'on est très seuls dans notre
genre.
C'est
des gens qui s'invitent.
Comment ça ?
Il faut m'appeler et dire je suis tout seul, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux venir ?
Ah ouais ?
Bon,
mais
c'est calé pour 2021 alors.
La tradition de
mes
nouvel an.
Ah oui, mais vous aviez combien de personnes ?
J'accueille, nous étions 8 cette fois-ci.
Ah bah oui, mais 8 alors là.
Oui, mais il y a moyen de trouver dans le 06.
Voilà. Alors, vous serez Elena Noguera le 10 janvier sur la scène de la Pépinière. Commencez l'année à la Pépinière, c'est espérer que 2020 va porter ses fruits ?
Oui. Alors, c'est pas moi qui joue. C'est-à-dire quand j'ai écrit une pièce... Mais
ah, c'est vous qui avez écrit la pièce ?
Voilà, c'est Mélanie Doutet qui joue, ainsi que Philippe Rebaud, et aux côtés de Romain Brault, qui est un jeune homme qu'on peut voir dans Les crevettes pailletées, qui est transgenre, qui est aussi beau en garçon qu'en fille. Et donc voilà les trois comédiens qui jouent ma pièce.
Je ne savais pas que vous aviez écrit une pièce de théâtre.
J'en avais écrit une déjà il y a un moment, qui avait été mise en scène par M. Farrugia, dans laquelle je jouais pour le coup. Et là, c'est mis en scène par Catherine Chaube.
Pourquoi vous n'avez pas joué dedans ? Vous n'avez pas envie ?
Non, en fait, ça me plaît beaucoup d'aller découvrir ces personnages rêvés, incarnés par d'autres personnes. Donc je n'ai même pas vu les répétitions, je ne vois rien.
Donc vous allez découvrir la pièce le 10 janvier au Théâtre de la Pépinière.
Oui.
Et si la pièce marche, du coup, elle va être rejouée ?
J'aimerais bien. En fait, donc, c'est le Paris des Femmes, c'est un festival où ils donnent la parole aux femmes. Donc ils ont demandé des pièces de 30 minutes pour pouvoir en jouer plusieurs. Il y a Jane Birkin qui a écrit, il y a Anne Luny, il y a Noémie Delattre, etc. Il y a trois soirées différentes. Comme ça, il y a trois pièces chaque soir. 30 minutes, et c'est comme des extraits, j'imagine que elles sont susceptibles d'être achetées par des producteurs.
Donc vous par exemple, votre pièce dure 30 minutes, mais si celle plaît à un producteur, vous la faites...
Je peux la rallonger.
Vous la rallongez à 1h30.
J'en ai les capacités intellectuelles, je crois. Et donc je peux la rallonger en 1h30, oui, 1h15, 1h30.
C'est nouveau pour vous l'écriture, Elena Noguera ? Parce qu'il y a eu un roman ?
Non, j'ai fait trois romans, et j'ai fait déjà une pièce de théâtre. J'en ai fait d'autres refusées. Mais
vous avez refusé des pièces ?
Ben oui. Oui. En fait, ce qu'on voit, c'est une partie infime de tout ce qu'on ne voit pas et qui est refusé.
Et c'est important pour vous l'écriture, Elena Noguera ?
Ah oui, j'adore. C'est un fantasme de ne vivre que de ça, mais c'est pas possible.
Ah oui, carrément ?
J'aimerais bien, ouais. Mais je ne peux pas.
D'où ce premier pas de ne pas être comédienne sur cette pièce ? Être vraiment que l'auteur caché ?
Oui. Mais même les précédentes, après parfois on insiste ou on me demande de jouer. C'est vrai que ça me plaît beaucoup d'avoir Mélanie Doutet, de la voir faire ça. Puis elle était contente de lire le texte, elle le trouvait chouette. Donc j'ai hâte de les voir incarner ça. Et puis même de me décevoir, comme diraient les Canadiens, de me décevoir dans le bon sens, c'est-à-dire que peut-être c'est pas ma vision, mais que ça mais m'amène ailleurs.
Et votre pièce parle de quoi, Elena Noguera ?
Alors là, il y a une thématique. Quand on vous appelle, on vous dit voilà, il faut écrire autour du secret. Donc il faut trouver un comment on va exprimer ça. Donc c'est un secret. Comme c'est un secret, je peux pas dire de quoi parle la pièce.
Il faudra découvrir ça lors de la 9e édition du Festival Paris des Femmes, 9 et 10, 11 janvier à la Pépinière Théâtre à Paris. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec Elena Noguera.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi 3 janvier avec Jean-Philippe Bisini, Ben H, Laurent Barra et notre invitée, la belle Elena Noguera. Elena Noguera, donc, qui vient nous parler d'une pièce dont elle est l'auteur et qui va se jouer lors de la 9e édition du Festival Paris des Femmes, 9, 10 et 11 janvier à la Pépinière Théâtre à Paris. Vous êtes féministe, Elena Noguera ?
Bien sûr, féministe, engagée.
Depuis toujours ?
Militante. Oui, je crois qu'on est féministe. Peut-être qu'on n'est pas femme, on le devient, mais quand on est femme, on est féministe.
Vous êtes d'une famille de femmes fortes.
Oui,
c'est vrai. Votre mère est une femme forte.
Ma maman est une femme forte, effectivement. C'est un matriarcat chez nous.
Et alors, les hommes ont leur place avec ces femmes fortes ?
Les hommes ont leur place, ouais.
Ils attendent.
Non, on leur laisse. En tout cas, moi, je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes de ma famille, mais oui, moi, j'adore les hommes. En fait, souvent, j'ai l'impression que les femmes ont peur de dire qu'elles sont féministes et les hommes ont peur des féministes en pensant qu'il y a une guerre qui est là. Mais il n'y a pas de guerre, en fait. Eux, Tarzan, nous, Jane, c'est parfait. Sauf qu'on veut l'égalité en droit et en dignité. Quand on dit qu'on veut être égal, ce n'est pas qu'on veut être pareil. C'est qu'on veut les mêmes droits. Donc, c'est tout à fait simple, c'est du bon sens. Et ça devrait être tout à fait bien compris par Tarzan.
Vous avez souffert de la place des femmes dans votre carrière, Elena Noguera, de la place accordée aux femmes ? Ou vous trouvez que ça évolue, justement ?
Oui, ça évolue. Et puis parfois, par inconscience, on ne se dit pas qu'on est une femme, mais un individu. Donc ça donne de la force. Mais parfois, on se rend compte qu'on est une femme et que ça diminue parfois les opportunités, les chances.
Et là, justement, cette initiative de donner la place à des auteurs femmes au théâtre, vous trouvez ça bien ?
Oui, c'est bien. C'est-à-dire qu'après, quand on est très évolué, on peut se dire que c'est dommage qu'il y ait des clans et que tant qu'il y aura des cycles de cinéma homo ou de cinéma africain ou de cinéma féminin, ça veut dire que c'est difficile, que c'est des minorités qui s'expriment et qu'on leur donne une petite place et qu'on leur concède une petite place. Donc il y aura un monde un jour où ça n'existera plus et ce sera un film de machin ou une pièce de machine et on ne parlera plus de ce problème d'équité et de parité. La parité, c'est peut-être un passage nécessaire puisque nous sommes encore des barbares et des hommes de Cro-Magnon et que nous sommes le barbare d'un être humain évolué qui arrivera à voir le jour si la planète le permet.
Alors vous dites que la réussite de votre sœur Lio a été formidable parce que tout d'un coup vous aviez une belle maison, il y avait de la lumière sur elle, tout le monde était content, c'était très joyeux. Et en même temps, vous avez après pris conscience que vous seriez toujours la sœur de...
On n'en prend pas conscience tout de suite. C'est maintenant que je me rends compte que c'est on peut pas s'en sortir. Ouais.
Mais ça vous a aidé aussi ou
C'est difficile de dire oui, de dire non. C'est-à-dire c'est comme ça. Après, il doit y avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est-à-dire je sais plus. Je m'en accommode. C'est comme ça. Des fois, ça mérite. Si les gens dans la rue me disent c'est vous la sœur de Lio, je dis non.
Ah oui ?
Après, ils disent, bah quoi, vous appelez pas Elena ? Je dis, bah voilà, j'ai donc un prénom.
On a reçu Lio la dernière fois et les gens lui ont dit, vous êtes la sœur d'Elena Noguera.
Mais
moi, des fois,
normal.
On me dit, c'est vous Anne Romanoff ? Je dis, non, je suis sa sœur.
Ah ouais ?
Quand j'ai pas envie d'être moi.
Et on vous croit ?
Ah ouais.
Moi, j'ai croisé quelqu'un qui a dit, j'ai vu la sœur d'Anne Romanoff, elle est pas sympa.
Non, moi, des fois, je dis que je suis la sœur de Sophie Marceau.
Ah oui ?
Ouais, j'aime bien. Ou je change de sœur, ou des fois, je dis non.
Vous êtes tous très bizarres, quand même. Hein, je vais vous le dire, vraiment.
On dit, vous êtes la sœur d'Elio, vous dites non, je suis la sœur de Sophie Marceau.
Ouais.
Mais elle a une sœur, Sophie Marceau ?
Je sais pas. Mais elle a moi, maintenant.
Et moi aussi.
Vous êtes la sœur de qui maintenant?
Non, mais quand on me dit, oh, je ne sais plus votre nom, je dis Laetitia Casta. Ils font non.
Pourquoi les gens rigolent à ça? C'est pas une blague?
Non, pas du tout.
Vous conseillez quoi aux gens, alors, Elena, pour cette nouvelle année? Elena Noguera.
C'est l'année 20 sur 20, donc c'est bien. On aura tous 20 sur 20. Ah, ouais. Je ne sais pas. Je pense que peut-être on peut rentrer dans les années folles.
Très bien,
sagement.
Ça.
Oh. Une année oxymore.
Ça veut dire quoi, oxymore?
Ouais, une sage folie. Ouais. C'est des trucs... c'est deux mots accolés qui sont antinomiques, enfin qui normalement sont contraires. Le soleil noir, un doux poison. Une folle sagesse, peut-être, 2020.
Roumanoff contente.
Mieux qu'une sage folie, oui.
Ou une sage folie.
Alors, en attendant la sage folie, Elena Noguera, on va aller voir votre pièce, la 9e édition du Festival Paris des Femmes, 9, 10 et 11 janvier à la Pépinière Théâtre. Et ça s'appelle comment, cette pièce? Un dernier rêve pour la route?
Un dernier rêve pour la route, oui.
Avec Mélanie Doutet.
Ouais. Philippe Rebaud et Romain Brault.
Et c'est le 9 et 10 et 11 janvier à la Pépinière Théâtre à Paris. Merci, Elena
Noguera. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.
Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants avec Jean-Philippe Vizini, Laurent Barabénache et notre invité jusqu'à midi, Bruno Solo, qui viendra nous parler de la saison 3 de sa série La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe, dont les épisodes 5 et 6 seront diffusés ce soir sur France 5.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Laurent Barra. Notre invité du jour est à la fois acteur, scénariste, animateur, producteur, réalisateur. Bref, son CV est long comme un discours d'Edouard Philippe. Il vient nous présenter la saison 3 du docu-fiction La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe. Il nous parlera aussi de la pièce 10 ans après qu'il jouera au Théâtre de Paris à partir du 21 janvier. Merci d'applaudir Bruno Solo. Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Anne.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Vous avez passé un bon réveillon?
J'ai tellement envie de parler du off. J'ai tellement envie de parler de tout ce qu'on vient de se dire avant que l'émission débute, de vos vacances merveilleuses qu'on failli tourner à la catastrophe, du miracle de la radio, à savoir que vous êtes là alors
c'est
que vous êtes
vivante,
miraculée. Elle a failli claquer comme Keith Richards d'une noix de coco sur le coin de la gueule, parce que peu de gens le savent, mais Anne Romanoff et Keith Richards des Rolling Stones ont eu l'aventure.
Ils ont la même destin.
Bon Bruno Solo, est-ce que vous avez
passé Rolling Stone off,
vous avez passé un bon réveillon?
Oui.
Chez
oui.
vous, en famille?
Exactement, chez moi, en famille. J'étais invité à pas mal de trucs et finalement on s'est regardé dans les yeux avec mon épouse et on a dit, et si on le faisait juste nous deux? Comme on avait fait Noël à
l'extérieur. Ah, les enfants, vous les avez...
Non, les enfants étaient là avec nous aussi.
Ils restent avec vous, mais ils ne s'ennuient pas?
Mon fils est parti vers 22h à une vague teuf. Il est revenu à 23h, bien allumé. Donc je me suis dit, il a bien profité de la fête pendant une heure. Et finalement, il a eu envie de retourner auprès de des siens.
Alors Bruno Solo, vous avez pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année?
Non, ça aussi, c'est des conneries. On les prend et puis on les tient pas nécessairement. La bonne résolution, c'est au moment où ça vient, où on est sincèrement convaincu qu'on va la tenir, mais la prendre comme ça...
On parle de résolution.
Oui, voilà. Bon.
Tout ça.
Vous n'avez aucune résolution?
J'ai pris pas mal de résolutions les autres années et je m'étais promis l'année dernière d'arrêter de fumer, par exemple.
Et non.
Et non, il y a 3 ans d'arrêter de fumer et j'ai arrêté.
Vous avez arrêté?
Oui, j'ai arrêté du jour au lendemain.
C'est bien.
Voilà, mais c'était pas parce que je l'avais pris... au moment du jour de l'an. Quoi. J'avais décidé d'arrêter de fumer, je ne savais pas quand, mais j'étais sûr qu'à un moment, j'arrêterais de fumer.
Ah ouais. Ça met une bonne ambiance, mais c'est beau. Ouais. Hein.
Ah ben, si vous voulez, je me remets à fumer, si ça vous fait marrer. Je fais ce que le public me demande. Bruno refume, allez. D'accord, je refume.
Refume. Ils s'en foutent.
Bruno Solo, vous venez nous parler de la saison 3 du docu-fiction La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe, donc c'est ce soir sur France 5. Pourquoi vous dites que c'est la véritable histoire de l'Europe? Avant, c'était la fausse? Ça veut dire qu'on nous a raconté des mensonges?
On nous a parfois raconté des mensonges, mais c'est une manière, c'est un effet d'annonce, c'est un truc un peu vendeur, c'est du buzz. Et c'est pour effectivement expliquer que l'Europe s'est véritablement construite dès la guerre de 100 ans. Il y a toujours une vocation dans la vieille Europe que les royaumes s'unissent. Pas nécessairement pour des bonnes raisons ou les mêmes raisons qu'aujourd'hui, mais il y a toujours une volonté des Espagnols, des Anglais, de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique.
Il ne faut pas trop s'étendre parce qu'on n'a pas le
Italiens.
Temps.
Non, mais je vous le dis, de faire une Europe.
Parce que j'ai plein de
non,
questions.
Mais voilà, je vous le dis. Alors, c'est pour ça qu'on dit la véritable histoire d'Europe, parce qu'elle a commencé bien avant qu'on constitue l'Europe en 58. Voilà.
Mais il ne faut pas faire des questions.
Des réponses trop longues.
Oui, c'est vraiment très étrange.
Faites-moi les questions courtes et on gagnera du temps.
Vous dites oui ou non et voilà.
Pourquoi le docu-fiction, Bruno Solo, vous auriez aimé être prof ? Vous aimez la notion de transmission ?
Parce que, oui. Voilà, allez hop.
depuis quand vous êtes passionné d'histoire, Bruno Solo ?
Depuis aussi loin que mes souvenirs remontent, depuis que j'étais en âge de l'apprendre et qu'on me l'enseigne. Et que...
Vous faites des week-ends Château de la Loire avec Stéphane Maire, Franck Ferrand et Laurent Deutsch ?
Je l'ai déjà fait. Il n'y avait pas Laurent Deutsch, mais j'ai déjà fait avec le regretté Gonzague Saint-Brie aussi, qui faisait des week-ends d'histoire. Et puis à Blois aussi, où il y a des festivals d'histoire, oui, ça m'arrive.
Vous êtes passionné ?
Ouais.
Et vos enfants, vous leur avez transmis ça ou ça ne les intéresse pas ?
Comment, vous savez comment ça se passe hein, avec les enfants. On rêve toujours qu'ils nous ressemblent un peu sur certains aspects. Mais
et
bon,
puis ils rejettent.
Et puis ils rejettent.
Ils sont ressemblent plus... aux voisins.
Ils sont... Non mais si, ma fille s'intéresse beaucoup à l'histoire, un peu moins mon fils.
Dans cette saison 3, Bruno Solo nous raconte avec passion le règne de deux très grands rois de France, Henri IV et Louis XIII, qui sont confrontés à des ennemis puissants et à de nombreuses intrigues aussi au cœur même de la cour de France. Il y a des résonances avec l'époque actuelle ?
Ah bah oui, vraiment. Henri IV est un roi qui a tenté de créer une concorde dans un pays qui était totalement dévasté, totalement divisé, etc. Et qui a réussi, en tant que roi protestant, à se convertir au catholicisme pour prouver qu'on pouvait aller au-delà de ses, voilà, de ses ambitions, au-delà de ses idéologies.
Ça s'est pas super bien terminé.
Ça s'est pas super bien terminé. Il a été assassiné par un fanatique catholique. Et ensuite, Louis XIII, lui qui est un roi très dévot, mais un peu velléitaire, qui avait un peu de mal à gouverner, qui s'est aidé du cardinal Richelieu. On découvre de très très belles choses, notamment dans les épisodes qui vont passer ce soir, sur la relation très intime et très complexe qu'il y avait entre Richelieu et Louis XIII. Richelieu n'était pas le... Cette sorte d'intrigant qu'on a voulu montrer, notamment par le biais d'Alexandre Dumas, c'est un homme plus complexe, c'est très loyal, très fidèle et vraiment très attaché au roi. Mais
une sorte de Benalla de l'époque.
Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, je pense que si
t'as
Benalla...
T'as eu combien en histoire, toi, Robert, ouais,
Non, mais je pense que Benalla, la soutane rouge, ça ne lui aurait pas été.
La saison 3 s'achève, Bruno Solo, avec la naissance de Louis XIV, ce fameux roi qui deviendra par la suite l'idole d'Emmanuel Macron. Alors, vous qui êtes calé en histoire, Bruno Solo, vous pouvez me donner la différence entre un monarque absolu et un président jupitérien ?
Ah, et c'est pas loin
vous
d'être la même
heures,
chose. Non, le dernier monarque contrarié qu'on a eu, à mon avis, c'est quand même Giscard d'Estaing. Lui, il avait vraiment quelque chose, un petit peu d'une manière d'envisager sa présidence comme un monarque effectivement très contrarié. Il aurait aimé être un roi. Les autres, non, ils sont au service de la République quand même. Après, avec différentes obédiences.
Donc ça, c'est la saison 3, épisodes 5 et 6, ce soir, à 20h50 et 21h45. Vous avez beaucoup d'écho de cette série ? On vous en parle ?
Ça marche, et c'est pour ça que ça continue. Et la quatrième saison, donc, on parlera exclusivement, effectivement, de Louis XIV. Parce que là, il nous faudra facilement 6 épisodes pour en parler.
Mais vous vous déguisez, vous ?
Non, il
dans la vie, vous voulez dire dans la vie, est-ce que je me déguise en os ? Est-ce que je me mets une robe ? Ça vous intéresse de savoir mes petits secrets ? Et pensez que j'ai balancé ça maintenant à Europe 1 là.
Vous allez bien en soirée alors ?
Non, mais pour présenter, vous vous déguisez pas ?
Mais non, pas du tout. Non, moi, je suis le narrateur, le passeur d'histoire. Après, pourquoi c'est un docu-fiction ? Parce qu'effectivement, des comédiens, et pas des moindres, hein. Cette année, on avait Maxime d'Abbeville quand même, qui jouait le rôle de Sully. On a Valéria Cavani qui joue. On a Franck Libert qui joue Henri IV, on a quand même des vrais comédiens qui jouent et incarnent les personnages. Et moi, tout simplement, je raconte, je suis le narrateur en voix off et j'interviens aussi sur les champs de bataille.
Mais du coup, vous n'avez pas envie de faire des personnages vous-même, Bruno Solo ?
J'en ai déjà fait, j'ai joué Napoléon, j'ai joué Mendès France, j'ai eu ma dose, moi, de personnages historiques et pourquoi pas en jouer un autre.
Il y en a un qui vous fascine, vous avez dit c'est...
Ouais, mais il n'est pas français. Enfin,
Garibaldi ?
C'est Garibaldi, qui est né à Nice, mais à l'époque, Nice est devenue française, mais à l'époque, comté de Savoie, qui était italienne. Donc oui, si j'avais dû jouer quelqu'un, j'aurais joué Garibaldi. J'ai déjà la barbe presque blanche, pourquoi pas. Mais je sens qu'on va plutôt me proposer le Père Noël que Garibaldi dans les années qui viennent.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission du vendredi 3 janvier avec notre invité Bruno Solo. Vous nous parlez des épisodes 5 et 6 de la saison 3 de La Guerre des Trônes qui seront diffusés ce soir à 20h50 et 21h45 sur France 5. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H.
Oh là là, comme vous avez.
Ça a bugué.
C'est incroyable.
Elle ne les reconnaît plus.
Et avec. Comment il s'appelle celui-là?
On va jamais partir en vacances, Romain, en fait.
Et notre invité Bruno Solo, dont les.
Vous avez pas dit le troisième, quand même.
Merci, monsieur Solo.
Vous avez dit Mini, Ben H.
Ça fait que deux ans qu'ils bossent ensemble. Pardon.
Et notre invité Bruno Solo, qui vient de voir des épisodes 5 et 6. Si, Laurent Barra.
Ça vous embête à ce point-là, maintenant.
Et notre invité Bruno Solo, venu parler des épisodes 5 et 6 de la saison 3 La Guerre des Trônes, qui seront diffusés ce soir à 20h50 et 21h45 sur France 5. Puis il y a une actualité de théâtre, Bruno Solo, parce qu'à partir du 21 janvier, vous serez sur la scène du Théâtre de Paris, dans la pièce de David Fuenquinos, 10 ans après, en compagnie de Mélanie Page et Julien Boisselier.
Alors, mise en scène par Nicolas Briançon.
Nicolas Briançon, qui signe tous les succès en ce moment.
Ouais, qui en signe quelques-uns, et je suis assez ravi qu'il ait accepté de mettre en scène cette pièce. Et
ça parle de l'amitié.
C'est une pièce assez ambiguë sur un triangle amoureux qui n'est pas ce que l'on croit et surtout pas ce qu'on voit. Et l'écriture de David Fuenquinos, c'est assez bizarre. Ça peut paraître une farce misogyne et c'est en même temps une fable féministe. C'est une pièce assez féroce, très drôle, sur une femme qui vit avec un homme. Et puis, 10 ans après, un autre homme de sa vie revient. Et comment vont-ils se comporter? C'est assez bizarre. Et moi, quand j'ai lu le texte, j'étais assez halluciné. Nous n'aimions pas tout à fait la fin de la pièce, et j'ose le dire maintenant. Et David a eu la grande intelligence et la grande générosité d'accepter de retravailler, sur ma proposition, une nouvelle fin de la pièce pour donner une nouvelle dimension à la pièce. Et ça, c'est pas tous les jours déjà qu'on a l'occasion de croiser des auteurs vivants déjà. Parce que quand ils sont morts, évidemment, on fait ce qu'on veut ou on fait pas parce que la famille veut pas. Mais là, David Fuenquinos, il est vivant et bien vivant. Il a eu compris que la pièce pouvait basculer vers autre chose. Et il a accepté ça et j'ai trouvé ça formidable.
Comment vous voyez en 2030, Bruno Solo?
Je me sens avec 10 ans de plus et j'espère que, vu le sport que je fais et comment je m'entretiens, que je serai toujours.
Ah bon, vous faites du sport?
Beaucoup.
Ah ouais? Quoi?
Ça lui a pas sauté aux yeux.
Là, on va peut-être vous laisser entre passionnés du coup.
Je cours, figurez-vous.
Ah oui, oui.
Ça vous fait un point commun. Oui. Bah,
si, moi si. Aussi, mais depuis peu.
Oui, oui mais pas longtemps.
Moi, depuis longtemps.
Parce que moi, je suis à 20 minutes.
Ah oui, non, vous ne courez pas. Vous allez faire vos courses, c'est pas pareil.
Mais non, je cours.
Moi, je fais des courses et vous allez faire vos courses.
Attention.
Mais non, en plus, il paraît qu'après 20 minutes, arrivent les endomorphines.
Tout à fait.
Et moi, je ne suis jamais arrivée à ça.
Vous arrivez quand ça vient, quoi, en fait. Vous arrêtez quand ça vient.
Oui. Mais parce que je ne peux pas aller au-delà pour l'instant.
Titre, vous arrêtez quand ça vient. Mais j'ai envie de vous dire que vous devriez continuer parce que c'est une extase extraordinaire de courir au-delà de 20 minutes, quand
c'est
même.
C'est vrai?
Oui, moi, je cours une heure.
On parle de sport, là.
Vous courez une heure? Vous courez une heure?
Oh oui, minimum. Oui, je cours 3 heures par semaine.
Ça ressemble au cul, le sport?
Hein, oui, ah oui, sur certains aspects, oui.
Ah bon?
Ouais, ouais.
Les positions.
Mais vraiment, il faut que vous y remettiez.
Parce que là,
vous y mettiez les filles. Ou alors vous arrêtiez, il faut que vous fassiez quelque chose. C'est une interview extraordinaire. Hein. Il se passe un truc, Anne.
Non, mais moi, je fais le tapis qui roule, là. Ouais. Et je marche.
L'escalator, ça s'appelle.
Mais non,
c'est ce que je dis, vous allez faire vos courses.
À Carrefour, sur le tapis qui roule.
En salle de sport, oui, oui, mais pas du tout.
En fait, c'est assez...
Elle va jusqu'au hall 2, elle revient.
C'est du sport surréaliste, en fait.
Alors, il y a cette rencontre avec Yvan Le Bolloc, qui est fondatrice, parce que vous étiez comédien, vous couriez les castings, ça marchait pas.
Déjà, à l'époque, vous voyez, je courais.
Et à 24 ans, à un moment, vous dites carrément c'était la misère, quoi.
Bah oui, enfin c'était la merde un peu, oui. Et puis, je m'accrochais à mon rêve. Et puis un jour.
Et vos parents croyaient en vous ou
ils... Oui, ils y croyaient, mais bon, ils pouvaient pas faire grand chose pour moi, si ce n'est y croire et m'accompagner, me soutenir. Et puis j'avais des copains aussi. Et puis j'avais mes certitudes à moi que j'ai perdues après. Maintenant, je suis plus un homme de doute que de certitudes. Mais à une époque, j'en avais. Ça aide un petit peu pour construire et pour grandir d'avoir des certitudes. Et après. Quand il vous semble que vous avez atteint un petit but, là, c'est là qu'il faut se nourrir des doutes pour continuer à avancer. Autrement, vous vous figez. Enfin, il me semble.
Donc, il y a Yvan Le Bolloc, c'est vraiment une vraie rencontre forte de vie.
Ouais, c'est un type à qui on a donné un gros gâteau et on lui a demandé de le partager avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et il a dit oui tout de suite sans réfléchir. Quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous dites, je vais peut-être le garder dans mon agenda, celui-ci. Donc, et ça fait 30 ans.
On vous en parle tout le temps, de Caméra Café, encore maintenant?
Oui, c'est souvent. Ouais, on nous demande souvent si ça va revenir.
Et vous avez envie que ça revienne?
Non. C'est drôle comme phrase. Mais non, pas nécessairement. Et d'ailleurs, c'est que j'ai déjà dit qu'on ne referait plus Caméra Café. On a arrêté. Donc, à partir du moment où j'ai arrêté un truc, moi...
Et alors là, vous alternez le théâtre, le cinéma, la télévision. Qu'est-ce que vous préférez ?
Cinéma un peu moins depuis quelques années. Et parce que le cinéma que j'ai envie de faire, on ne me le propose pas. Et le cinéma qu'on me propose, ce n'est pas celui que j'ai envie de faire. Mais en télévision, en revanche, on me propose des choses belles, intéressantes. Et depuis quelques années, oui, j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de télé, beaucoup de théâtre.
Et alors, le théâtre, ça reste un grand plaisir.
Oui, oui,
parce
non,
que quand
théâtre,
on regarde, j'étais étonnée que vous ayez fait autant de théâtre. Quand on voit la liste, j'étais vraiment impressionnée.
Oui, j'en ai fait pas mal. Oui,
et des choses très différentes en plus.
J'ai fait des pièces très tragiques, des pièces plutôt drôles. Cette année, c'est une pièce un peu ambiguë. L'année dernière, j'étais dans la pièce Baby avec Isabelle Carré, qui était une pièce sur la GPA, et qui était une pièce bouleversante, une pièce américaine. Et voilà, j'essaye de, dans la mesure du possible, de varier les plaisirs dès lors qu'on me les propose. C'est ça le problème des comédiens, c'est que les acteurs, les actrices, on a tous envie de varier et de faire des choses différentes, mais on ne nous le propose pas nécessairement. Depuis quelques années, on me le propose, donc je ne m'en, je m'en prive pas.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour en 2020, Bruno Solo ?
De rester en forme et de courir les fameuses 20 minutes de plus pour atteindre l'endomorphine. Pour atteindre l'orgasme.
Ah, c'est un orgasme ?
Une extase. Mais lui dites pas ça, va courir tous les jours.
Mais justement, elle aura raison.
Elle va courir tous les jours.
Mais non, mais j'y crois pas, ça ne m'est jamais arrivé.
Non, mais vous vous arrêtez aux préliminaires.
Vous arrêtez avant les préliminaires, oui.
Non, mais c'est à 22 minutes.
Oui, 22.
Ouais, bah, c'est pas comme ça que ça se quantifie. C'est qu'au bout d'un moment, effectivement, votre corps commence à réagir.
Oui, mais faut
et vous passez
quand
ce qu'on appelle,
prosaïquement
le second souffle. À partir de 20 minutes, vous êtes moins fatigué et vous rendez compte que vous pouvez courir beaucoup
mais
plus.
Mais c'est le contraire, au bout de 20 minutes, je suis au bout de ma vie. Moi.
Non, mais parce que si vous poussiez un tout petit peu plus, vous rendriez compte que ce n'est pas assez difficile. C'est pas assez difficile. Voilà. Surtout courir, au bout d'un moment, on peut alterner, on peut courir moins vite. On peut aussi.
Ça, le fait déjà.
On est bon là-dedans.
Je suis plutôt en trottinage, moi. Jean-Philippe Vizini a des choses à vous dire, Bruno.
Oui,
alors je vais l'écouter.
Vous parlez de votre, vous venez pour votre émission d'histoire et moi j'ai à la maison deux enfants et comme tous les parents, je dois m'acquitter de la corvée que tout le monde redoute, les devoirs d'histoire.
Ah, c'est pas la pire corvée, pourtant, les devoirs d'histoire.
Ah, si. Pourtant, l'autre soir, tout avait bien commencé. Il est 19h, ma femme a mis sa petite robe rouge d'eau nue. Elle a sorti une bouteille Ruinard blanc de blanc. Et quant à moi, j'ai mis du déo. Voilà, bon, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Et ma femme se sert une coupe de champagne et me dit « Tu trouves pas qu'il fait un peu chaud dans le salon ?» Et là, à ce moment-là, il y a le petit qui débarque dans le salon qui me dit « Papa, papa, pourquoi Henri IV, il a été assassiné par Ravaillac ?» Oh non, mais on s'en fout. Ma femme qui monte, qui dit « Bon, je te laisse avec les devoirs, moi je vais monter dans la chambre avec la bouteille de champagne. » Non, non, chérie, reviens, s'il te plaît. Bon, alors, mon fils, alors, Henri IV, comment t'expliquer ? Henri IV, c'est le chef de la France, voilà, c'était le chef de la France, hein ? Comme Macron, voilà, c'est ça, voilà. Henri IV, c'est Macron, voilà. Et Ravaillac, il a une moustache, hein ? Comme Martinez, voilà, voilà. Ravaillac, c'est Philippe Martinez de la CGT, voilà. Chérie, bois pas tout, j'arrive ! Donc, Henri IV qui avait une femme très jeune, hein, comme quoi les choses évoluent. Alors, donc Henri IV, comment te dire, en fait, il se la pétait un peu. Voilà, c'est ça qui énervait le peuple. Tu vois, un jour, il y a un chaudronnier qui lui dit il n'y a pas de boulot, comment on fait ? Henri IV, il lui dit t'as qu'à traverser la forêt, tu vas en trouver. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de rue, c'était comme ça. Chérie, attends, on voit pas tout. Quoi ? Alors, et Ravaillac. Alors, Ravaillac, il sortait d'une année compliquée, hein, parce qu'en fait, il s'était fait voler la vedette par les chevaliers jaunes qui bloquaient tous les ponts-levis tous les samedis. Voilà, chacun il raconte l'histoire comme il peut. Hein. Et voilà, et quand Henri IV il a voulu mettre l'âge de la retraite à 65 ans, Ravaillac il a gueulé, il a dit ouais, comment voulez-vous qu'on bosse jusqu'à 65 ans, sachant que le plus vieux d'entre nous il a vécu jusqu'à 48 ans. Bon, hein, bah oui, à l'époque il n'y avait pas les antibiotiques. Hein. Tu comprends mon fils ? Non, t'as rien compris. Hein. Là j'entends ma femme qui dit mets la télé sur France 5, il y a Bruno Solo qui explique tout. Ah bah super ! J'ai mis la télé, je suis monté dans la chambre, ma femme elle avait tout bu, elle s'était endormie. Bon, alors ce soir si vous voulez passer une bonne soirée, vous savez ce qu'il vous reste à faire, France 5, Bruno Solo. Voilà.
Ravi de vous avoir rendu heureux.
Merci Bruno Solo d'être passé nous voir. On rappelle La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe, la saison 3 ce soir sur France 5. Et puis la pièce 10 ans après au Théâtre de Paris de David Fuenquinos, mise en scène de Nicolas Briançon avec Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier, à partir du 21 janvier 2020. Passez une excellente année Bruno Solo.
Je vous souhaite la même et mieux encore.
Merci.
Salut à toutes, salut à tous.
Tout de suite, écoutez Le Monde Changer avec le journal de la rédaction. On se retrouve dès lundi à 11h sur Europe 1.